On est arrivé, merci beaucoup encore. On est arrivé à notre dernière communication, donc je donne parole à Sabine Kreckner, qui vient de l'université de Helsinki, qui est spécialiste de la littérature contemporaine, très contemporaine. Voilà, donc je vous laisse vous introduire.
Un roman qui a été traduit en fait en Finlande, en finnois. C'est pas, la réflexion est partie de là et on a été un peu étonné par les choix qui ont été faits. On a voulu on a commencé un projet où on a voulu présenter d'autres auteurs français que ceux qui sont traduits habituellement en Finlande, en finnois, et donc des auteurs français qui sont pas du tout connus, et on a voulu donner un certain panorama de la littérature française. Et donc il y a un certain nombre de textes qui viennent d'être publiés en finnois. Et donc je me suis intéressée à ce qu'on appelle la littérature francophone, et dans le but de ce projet. Et j'ai voulu m'intéresser à certains auteurs particuliers. Et donc il s'agit ici d'écrivains que j'ai appelés à l'identité hybride. Donc c'est un terme qui me convient pas, mais c'est le seul que j'ai trouvé qui puisse traduire ce que je voulais dire, représentant d'une littérature monde d'aujourd'hui et de demain. En effet, il existe aujourd'hui un nombre important d'auteurs dont l'œuvre se caractérise par la description de leur identité hybride, à la fois par exemple orientale et occidentale, juive, musulmane et laïque, française et algérienne, ou française et libanaise. Ces écrivains sont des représentants de notre société en marche vers un monde pluriculturel et métissé, qui n'oublie pas cependant le mouvement de l'histoire qui les a portés jusqu'à leur identité présente. Leur contribution est là pour nous montrer le chemin de l'identité multiple, porteuse d'avenir pour les générations futures, mais toujours respectueuse du passé qui a amené ces écrivains là où ils sont arrivés. En littérature, l'intérêt porté à ces textes est souvent canalisé dans le cadre des études postcoloniales, bien moins développées en France que dans le monde anglo-saxon. Ces études postcoloniales, du côté français, sont elles-mêmes en plein renouvellement théorique et en pleine redéfinition de leur objet d'étude. Ainsi, les textes qui décrivent, entre autres, une identité hybride ont été classés dans la catégorie appelée « littérature francophone », en parallèle avec la littérature française, une terminologie et un contenu qui sont remis en question aujourd'hui. Le monde des littératures francophones rend compte le plus souvent de textes authentiques, écrits par des hommes victimes de la domination politique et symbolique du monde occidental. Ce sont les textes issus de la francophonie qui sont l'objet de réflexions des études postcoloniales. Les littératures francophones et les théories postcoloniales ne sont pas des notions très claires ni très simples en France, les premières, les littératures francophones, parce qu'elles sont engagées dans un débat idéologique qui s'interroge à la fois sur le terme de francophonie et sur l'arrière-plan idéologique qui motive la francophonie, et les secondes, les théories postcoloniales, parce que leur origine est anglo-saxonne et qu'elles ne sont pas encore bien intégrées dans le paysage intellectuel français. Les études postcoloniales s'occupent de la littérature écrite dans une langue héritée de la colonisation et questionnent l'histoire coloniale et ses traces dans les textes jusqu'à notre monde contemporain. Ce qui pose problème aujourd'hui lorsqu'on se penche sur la littérature dite francophone, c'est le terme de francophonie, de plus en plus récusé, et plus qu'une affaire de mots, il est question ici de ce que les mots recouvrent. Comme le rappelle le manifeste de 44 écrivains qui a été publié dans Le Monde il y a un an, un peu plus d'un an, donc en mars 2007, et qui défend une langue française qui serait, je cite, « libérée de son pacte exclusif avec la nation », le monde, le sujet, le sens, l'histoire, le référent reviennent en littérature, et c'est la fin aujourd'hui d'une littérature sans autre objet qu'elle-même, celle-là même qui refusait, je cite, de se frotter au monde pour en capter le souffle et les énergies vitales. Dans ce contexte de grand changement en littérature, des écrivains nés en Angleterre, mais ne vivant plus dans un pays d'origine à jamais perdu, se sont éprouvés, je cite, entre deux mondes, entre deux chaises, tentant vaille que vaille de faire de ce télescopage l'ébauche d'un monde nouveau. Ainsi, une nouvelle génération d'écrivains a vu le jour, qui est issue de l'immigration, mais ne se coule plus dans le moule de la culture du pays d'adoption. Au contraire, elle construit son œuvre à partir de cette identité plurielle qu'elle s'embrouille en elle. La façon de se situer par rapport à ses origines premières est alors bien différente, puisqu'il ne s'agit plus de se positionner par rapport à la décolonisation, mais de se profiler comme annonciateur du XXIe siècle et de ses métissages divers. Ces auteurs ne sont plus les produits de la décolonisation, mais, je cite, « les acteurs d'une nouvelle vague internationale et transculturelle ». Et il se trouve que la littérature française est tout autant concernée que celle anglo-saxonne par ce mouvement. De nombreux écrivains de langue française sont liés par deux ou plusieurs cultures. Mais leur particularité en France est qu'ils se trouvent relégués dans les marges de la littérature, dans celle dite francophone, aux limites de la vraie littérature franco-française, réservée, elle, aux francophones de souche. Tout cela renvoie bien sûr à une certaine vision du monde, à savoir une vision au sein de laquelle la France est mère des arts et dispense ses lumières, une France soucieuse d'apporter la civilisation, je cite, au peuple des ténèbres. Bref, dans une approche un minimum critique, on se rend bien compte que la façon d'envisager la francophonie fait de cette notion, quelque part, un des derniers avatars du colonialisme, et c'est cette idée qui doit disparaître, selon les signataires du manifeste, pour laisser émerger une littérature monde en français, terme peut-être idéaliste, vague ou fourre-tout, mais qui a le mérite d'indiquer que le monde et la littérature francophone ont changé et méritent que l'on réfléchisse à nouveau à leur place et à leurs enjeux. En d'autres termes, le temps n'est plus à une littérature issue de la décolonisation, mais il s'agit aujourd'hui d'une littérature en français revendiquant sa place pleine et entière au sein des lettres franco-françaises et porteuse de surcroît d'un discours à l'avant-garde sur le pluriculturalisme et le plurilinguisme d'aujourd'hui et de demain. C'est dans ce contexte de ce que Jean-Marc Mourat appelle, je cite, « une mutation de la réception des écrivains » qu'il s'agit d'envisager maintenant ces écrivains, autrefois considérés comme des auteurs engagés dans une écriture anticoloniale et aujourd'hui perçus comme éloignés de cette démarche et revendiquant avant tout leur identité singulière. Alors qu'est-ce que l'identité hybride d'une œuvre et d'une voix ? Nous avons choisi pour notre propos des écrivains issus du Maghreb et du Proche-Orient, ainsi qu'une européenne de culture juive, afin de montrer que d'un côté comme de l'autre des antagonismes, orientaux versus occidentaux, religieux versus laïcs, musulmans versus chrétiens, c'est la même recherche d'équilibre dans l'identité qui est en jeu. Le nombre d'écrivains choisis ici est restreint, mais l'analyse qui en est faite est applicable à notre sens à un plus grand nombre d'auteurs. Le point de ralliement le plus flagrant de ces auteurs est la conscience qu'ils ont de leur moi pluriel, de leur identité en évolution constante, fondée sur une négociation culturelle permanente. La position de l'écrivain Wajdi Mouawad est la plus emblématique. Wajdi Mouawad est né au Liban en 1968. Il a vécu tour à tour à Beyrouth, à Paris et à Montréal. Auteur et metteur en scène pour le théâtre, il a écrit une quinzaine de pièces et un roman. Son roman « Visage retrouvé », qui raconte le parcours d'un enfant pour se sortir du traumatisme de la guerre, s'inscrit dans un espace où l'auteur tente en quelque sorte de gommer son lien à son lieu d'origine et vise à s'inscrire dans la tradition européenne ou canadienne en essayant d'effacer toute trace linguistique, thématique ou formelle de ses racines libanaises. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs, puisqu'il raconte donc un attentat à Beyrouth, mais donc on comprend le contexte, le lieu où ça se passe, mais c'est effacé autant que possible. Et donc on peut dire, dans le cas de Mouawad, que volontairement blanche, la scénographie de son œuvre veut détacher l'œuvre de la contingence historique. C'est au Québec que Wajdi Mouawad s'est installé de manière permanente et c'est dans cet environnement que son travail a d'abord été reconnu. Par exemple, la création de Willy Protagoras enfermé dans les toilettes fut élue meilleure création à Montréal en 1998 par l'Association québécoise des critiques de théâtre. Cependant, on ne peut pas inscrire l'œuvre de Mouawad dans le courant de la littérature québécoise, dans laquelle elle n'a pas sa place. Par ailleurs, il est impossible de ne pas être sensible à la lecture de visages retrouvés, et ce, dès les premières pages, à son écriture singulière, hors du commun. Michel de Nance mentionne d'ailleurs dans « Les cahiers du théâtre jeu » et à propos du texte théâtral « Journée de noces chez les Cro-Magnon » qui a été publié en 1992, que la langue de Mouhawad n'est pas la langue colonisatrice de la métropole, mais une langue expressive que l'on parle dans certains pays de la Méditerranée. On pourrait avancer pour ce qui est de l'inscription de ce texte dans un cadre discursif, qu'il refuse tout à la fois d'être politisé explicitement, il ne s'inscrit pas dans un cadre historique ou politique très précis, bien qu'il dénonce la guerre et la violence autour de scènes très fortes d'attentats, et en ce sens il adhère à un courant de discours post-colonial, et est aussi teinté d'une langue particulière, non dans le choix de son vocabulaire ou dans celui de ses thèmes, ni même dans sa construction, mais dans son expressivité, car il est question dans Visage retrouvé de l'éloquence et de la dérision libanaise. L'analyse de ce texte montre combien il est difficile de classer ses œuvres à la facture nouvelle, qui ne s'inscrivent pas dans l'idée que l'on pouvait se faire auparavant de la littérature post-coloniale et francophone, dénonçant l'oppression du colonisateur et se situant clairement dans un lieu et une culture en rébellion contre une autre culture. Et combien l'identité hybride qui apparaît dans le texte, qui renvoie à celle de l'auteur, est subtile. Il semble clair pourtant, en se basant sur cet exemple tout à fait symptomatique de ce qui s'écrit aujourd'hui, que Wajdi Mouhawad est avant tout un écrivain de langue française, qu'on doit classer dans le courant de la littérature monde en français, et que son œuvre est à la fois dans l'histoire et hors d'elle, géographiquement au Liban, au Québec, et dans le même temps, dans un lieu et un temps qui n'ont pas tellement d'importance, tant ce qui compte est ailleurs, non dans des antagonismes ou dans des réalités historiques, mais dans un discours visant à la dénonciation de la violence et au respect des traumatismes et des singularités de chacun. Dans le cas des autres auteurs choisis, dans leurs textes, La disparition de la langue française ou dans Garçon manqué de Nina Bouraoui, il s'agit d'une identité plurielle qui se joue entre la France et l'Algérie, l'autre texte étant Nassed Jeba. L'aspect le plus frappant qui émerge des textes est l'impossibilité de conciliation entre les deux cultures, impossibilité qui vient du dehors, du regard des autres. Et je cite un passage de Nina Bouraoui dans Garçon manqué. Les Algériens ne me voient pas. Les Français ne comprennent pas. Je construis un mur contre les autres. Les autres, leurs lèvres, leurs yeux, qui cherchent sur mon corps une trace de ma mère, un signe de mon père. Elle a le sourire de Marivonne. Elle a les gestes de Rachid. Être séparé toujours de l'un et de l'autre. Porter une identité de fracture. Se penser en deux parties. À qui je ressemble le plus? Qui a gagné sur moi? Sur ma voix, sur mon visage, sur mon corps qui avance, la France ou l'Algérie. Comme le souligne Amin Malouf, à toutes les époques, des personnes ont voulu que chacun se reconnaisse dans une appartenance majeure, alors que l'identité ne se construit ni par moitié, ni par partie cloisonnée, mais se bâtit avec tous les éléments en présence, selon un dosage et une réception qui est tout à fait individuelle, qui varie d'une personne à l'autre et au cours d'une vie. On peut appliquer aux auteurs que nous avons choisis cette déclaration d'Amin Malouf, je le cite, « Mon but n'étant pas, on l'aura compris, de retrouver en moi-même une quelconque appartenance essentielle dans laquelle je puisse me reconnaître. C'est l'attitude inverse que j'adopte. Je fouille ma mémoire pour débusquer le plus grand nombre d'éléments de mon identité. Je les assemble, je les aligne, je n'en renie aucun. » En cela, les auteurs contemporains sont différents de leurs aînés, en ce qu'ils ne cherchent nullement à revendiquer une identité contre une autre, à défendre par exemple leur identité algérienne dans un environnement français, ou à opposer les différentes composantes de leur identité. Ce à quoi ils aspirent, au contraire, c'est à une reconnaissance des multiples facettes de leur identité, car leur identité profonde, c'est justement d'être entre deux pays, deux cultures, l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre. Mais l'identité plurielle peut aussi d'abord être niée, comme c'est le cas de Karine Bernfeld, au début du processus d'écriture du récit qui raconte l'histoire de sa famille. Je la cite. « Pourquoi écrire cette histoire ? Sans arrêt, je m'interroge. Me faire le porte-parole des Juifs, moi. D'abord, je ne me suis jamais reconnue comme telle. Ça voulait dire quoi, être juif ? Mon nom de famille bizarre ? Germanique, somme toute ? J'ai jamais mis les pieds dans une synagogue de ma vie. Toujours mangé du jambon avec la purée de mon enfance. Alors quoi ? Tu es française, de parents français. Mille fois mon père m'a répété ça, comme si justement on en doutait. » Les écrivains décrivent ainsi la complexité de leur identité composée de deux exils entre deux terres, deux langues, deux cultures. Le voyage qu'ils accomplissent, par l'écriture, les transporte à l'intérieur d'eux-mêmes, au cœur de leur identité hybride. Écrire rapporte leur séparation d'avec le reste du monde et leur espoir de lendemain meilleur. Il y a des thèmes communs chez ces écrivains, en particulier la fidélité au passé. En effet, le silence entre les générations des parents et des enfants, le silence sur la guerre et ce qui a préexisté à la guerre, sont des raisons qui peuvent amener à l'écriture les descendants d'adultes silencieux, dont Karine Berfeld est un bon exemple. Ce silence, il s'explique de la part des parents par la volonté de ne pas lester les enfants d'un passé trop lourd et par le désir de les projeter dans l'avenir. Pourtant, cette absence de parole est souvent accompagnée d'un paradoxe, celui de ne pas oublier ses origines, mais en même temps ne pas accompagner ce refus de l'oubli d'un récit. Il nous semble que ce qui caractérise ces écrivains à double nationalité, double culture, double passé, le leur et celui de leurs aînés qu'ils portent, c'est qu'ils ont voulu retrouver un passé qui leur avait été largement tu, retrouver une identité qui leur paraissait importante, mais aussi à la fois ténue. Chacun, à l'intérieur du récit, retrace toute l'histoire de la famille dont il est issu, que ce soit l'auteur lui-même ou son personnage principal. La fonction d'écriture est alors de se saisir dans la complexité de son identité, mais aussi de transmettre quelque chose de l'ordre de la connaissance à partir de l'expérience de la souffrance des anciens. L'idée de transmission s'inscrit aussi tout à fait dans la tradition de la culture juive, par exemple, dans laquelle le livre est important, ainsi que les rituels qui consistent à rappeler le nom des victimes mortes. Karine Berfeld, au début de sa démarche, dit bien la difficulté à se plonger dans le passé de ses ancêtres, mais pourtant cette difficulté se mue en nécessité. Comme pour Mouawad, il s'agit d'apprendre à vivre avec un chagrin inconsolable, de faire face à son inaptitude à vivre en tant que survivant, de trouver des solutions pour surmonter son mal-être. Le récit que nous livre Karine Berfeld est déroutant, touffu. C'est l'histoire des ancêtres Joseph et Ella, fait d'aller et retour, de concordance de temps qui déroute. Histoire dramatique qui finira bien pourtant, et pour l'auteur, c'est le moyen de donner un sens à la souffrance. Elle écrit « J'ai fait un géno-sociogramme, sans le savoir. C'est le joli nom qu'on donne à l'arbre généalogique des traumatismes. » En même temps, comme elle l'explique, c'est toute son identité personnelle et complexe qu'elle exprime à travers ce récit, fait d'histoire au présent et d'analyse du présent comme s'il appartenait au passé. Mouawad s'inscrit aussi de manière particulière dans le passé. Toute son œuvre théâtrale est traversée par la thématique de la guerre. Par exemple, dans « Journée de noces chez les Cro-Magnon », déjà cité, il est question d'une famille décidée à préparer coûte que coûte les noces de la fille aînée alors qu'un bombardement a lieu. L'exemple d'une réplique du personnage de Nelly illustre bien la force de la présence du thème dans la pièce. Le personnage dit « C'est définitif, j'avance. On ne fera pas de moi une combattante au regard noirci. On ne fera pas de moi une croupissante de terreur. Je marche rayonnante à travers le charnier. Je regarde vers le haut. Je ne plierai pas devant les obus pour éviter leurs cris de haine. Non, non. Il est plus beau d'espérer que l'obus dévira lui-même de sa trajectoire devant la clarté de mon visage. Mon expérience ne sera pas celle de la guerre. Je refuse. » Et il en est de même dans le texte qui s'appelle « Lettre d'amour d'un jeune garçon qui, dans d'autres circonstances, aurait été poète, mais qui fut poseur de bombes à sa mère morte depuis peu. » Donc un texte qui date de 2005, où après la mort de sa mère, un jeune homme de 15 ans devient tueur de soldats, poseur de bombes. Dorénavant, il parlera la langue du sang et de la haine, car là d'où il vient se trouve la douleur immense d'une blessure. Une bombe tombée sur le jardin de son père a déraciné sa terre. On pourrait limiter la lecture de la présence de la guerre dans l'œuvre de Mourawad à celle d'une lecture psychanalytique ou psychologique et avancer que l'écriture sert à l'auteur, par la récurrence du thème, à exorciser un traumatisme. Cette dimension n'est pas absente, mais il semble que le roman de Mourawad et le reste de son œuvre si singulière permettent aussi une autre lecture qui se propose de témoigner de l'expérience de la guerre et surtout de la dénoncer tout en la situant dans un contexte imprécis. Pour donner davantage de force à son propos, Mourawad généralise la guerre pour mieux la condamner. Il ne lui donne aucune singularité, ne l'installe dans aucun lieu trop précis ou dans des circonstances historiques définies, parce qu'au fond, toutes les guerres et leurs conséquences se ressemblent. C'est de cette manière qu'il choisit de respecter son passé et de lui être fidèle. Quant à Assia Djebar, elle inscrit son roman, donc La disparition de la langue française, dans le détail historique, aussi bien dans celui du grand-père du héros assassiné à Oran par le FLN que dans celui de la journée du 11 décembre 1960, durant laquelle le personnage principal Berkane est arrêté, emprisonné puis torturé. Le détail même des techniques de torture est donné. À la fin du roman, dans un temps contemporain de celui de l'écriture, le retour sur les lieux d'emprisonnement et la disparition du héros, probablement enlevé et tué, est narré, illustrant le climat de terreur plus ou moins grand régnant en Algérie. Dans tous ces textes, l'accent est particulièrement mis sur le poids de l'histoire à porter, celle à laquelle la famille a participé, et comme dans l'œuvre de Mourawad, il s'agit aussi du retour à la scène première traumatisante, celle du premier drame autour duquel s'est construite toute une existence. Et enfin, la langue est un autre point de tension important dans l'identité hybride. En dehors de Wajdi Mourawad, qui semble avoir tracé un trait sur la langue arabe, les autres auteurs décrivent en détail leur rapport à la langue, et ce, dès le début des textes. Nina Bouraoui, écartelée entre deux cultures, ne parle pas l'arabe. Sa voix la prononce, mais l'auteur, je la cite, reste à l'extérieur du sens, abandonné. La langue lui échappe. Elle laisse ses marques, des mots, et s'échappe. Elle ne prend pas sur elle. Elle la rejette et la laisse se sentir étrangère. Et elle écrit « Ma terre se dérobe. Je reste ici, différente et française. Mais je suis algérienne. Par mon visage, par mes yeux, par ma peau, par mon corps, traversé du corps de mes grands-parents. » Karine Bernfeld, elle non plus n'arrive pas à parler l'hébreu. Je la cite « Et pourquoi je ne parle pas hébreu, alors que mon frère le comprend parfaitement ? Parce que mes parents lui ont parlé hébreu quand il était petit, pensant peut-être retourner en Israël plus tard. Quand je suis née, ils savaient qu'ils ne repartiraient plus, alors ils ne m'ont parlé que français, ma langue maternelle. » Langue qui échappe, langue que l'on refuse, et à l'opposé, langue qui manque, langue que l'on retrouve, comme le personnage de Berkane dans La disparition de la langue française. Ce retour pour lui à la langue de l'enfance se manifeste de manière particulièrement frappante dans la relation amoureuse. Retrouver l'amour, c'est pour lui retrouver la possibilité de s'exprimer dans la langue de sa jeunesse, jouir de faire l'amour en parlant sa langue première. Car, comme le dit Berkane à propos de sa relation avec son ami en France, « le chéri que je ne sais pas prononcer spontanément, à la place, fusait deux, trois vocables arabes de mon enfance. » Lorsque la femme aimée est arabe, elle trouvait des mots d'hier, de l'autre siècle, de nos communs ancêtres oubliés, et elle me les offrait, ces vocables, l'un après l'autre, à chaque scansion, à chaque rebond de notre volupté. Et lorsqu'il s'agit de traduire la scène en français, la langue devient une porte étroite pour redire la langueur et la volupté vécue en arabe. Ce rapport à la langue nous paraît être l'illustration parfaite de ce que peut être l'identité hybride. Rien de rationnel n'explique l'impossibilité de Nina Bouraoui à parler et à apprendre l'arabe, comme rien ne justifie vraiment le retour à la langue arabe de Berkane, alors même qu'il écrit en français, qu'il a vécu en français et en France pendant 20 ans. C'est dans cette indéfinition, cette absence de choix d'un camp ou d'un autre, dans un subtil dosage personnel, que l'identité se fonde et reste unique. Visage algérien et voix française, nous dit Nina Bouraoui, ne pas choisir entre les deux, même si c'est pour être dans l'errance, tout en restant dans la vérité de ce que l'on est. La fonction finalement de l'écriture est de rapporter cette séparation. Écrire protège de la violence du monde environnant qui somme de choisir son camp. Le monde est senti par ses écrivains de manière différente, car décentrée. En même temps, leur parcours casse les antinomies qui gouvernent trop souvent le monde aujourd'hui. Ces antinomies ne sont pas résolues, mais vécues au quotidien. L'univers décrit par ces auteurs rejoint celui des voyageurs modernes, loin aujourd'hui des récits exotiques d'antan, mais proche de la démarche des écrivains de la littérature monde qui font en voyage l'expérience d'un télescopage en soi de deux ou plusieurs cultures. Ces nouveaux angles d'approche du monde nous donnent à voir, nous lecteurs, une nouvelle réalité dont il faut se réjouir. Je vous remercie.
C'est-à-dire trouver le langage du trauma, qui est une des notions, et ensuite trouver la langue corporelle qui puisse assumer toute l'identité, entité de l'être. Ce sont deux notions qui sont absolument bien révélées, je crois, par votre communication et qui nous ouvre des perspectives de recherche et d'intérêt assez, assez exceptionnelles, je crois. Je vous en remercie.
En fait, nous avons vu ce manifeste dont vous avez parlé un peu lors d'un cours. Et on l'a comparé avec une contre-manifeste, disons, qui était que les auteurs de manifestes sont un peu allés trop loin, qu'ils veulent démolir leur propre entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue-là?
Ils veulent démolir leur propre entreprise.
Oui, la francophonie en général. Parce que c'était pour une littérature monde de l'expression française.
Oui.
Et c'était le contre-manifeste, c'était un peu l'idée que les auteurs veulent en fait démolir un peu leur propre entreprise.
Leur propre, c'est-à-dire gommer les singularités pour faire une littérature où il n'y a plus de différence entre écrire en France en étant français et mm-hmm. C'est ce que vous voulez dire, hein?
Oui, mais c'est peut-être c'était peut-être un peu vague,
je pense que c'est pas possible, enfin vu ce qu'est la littérature française contemporaine, donc franco-française, je pense que la littérature, donc la littérature monde, enfin telle qu'elle a été décrite par ces manifestants, donc ne ressemble pas du tout. Enfin, il y a encore des. Enfin, il y a, à mon avis, ce sont deux littératures qui se ressemblent absolument pas pour l'instant et qui vont pas se ressembler. Je pense pas. Donc, ils ont peut-être été trop extrémistes dans leurs propos. Oui, je suis d'accord, je pense pas qu'ils aient mis en danger cette littérature. Hein.
Merci.
Parce que je fais une étude approfondie de Kuruma, donc c'est un francophone ivoirien. Et je fais une étude de Allah n'est pas obligé. Et c'était très intéressant parce que je l'avais lu avant de lire, disons, les textes de Kuruma scientifiques. Et lui, il dit, mes textes littéraires sont une réponse aux défis lancés par l'Occident. Alors, si je devais donc revoir votre communication très intéressante sur tous les, disons, les représentants monde, je dirais que l'identité hybride, c'est un terme, disons, qu'il faudrait revoir à partir de ce que vous avez dit, à partir de ce que Kuruma dit. Et même littérature monde, parce que on ne peut pas mettre ensemble, par exemple, Kuruma avec Nina Bouraoui, par exemple. Et donc, vous l'avez fait de manière brillante, mais peut-être il faut découper et voir comment répondre aux défis de l'Occident par la langue de Kuruma, par exemple, qui est une langue qu'il appelle le français, mais qui est une autre chose encore, et qu'il invente. Alors là, peut-être qu'il faudrait couper, et peut-être enlever, disons, ce terme qui me dérange, d'identité hybride.
Oui, c'est pas un bon terme, ça, ouais. C'est clair. Mais bon, le problème, c'est une défense un peu, parce qu'il y a quand même en France, une distinction absolument incroyable entre la littérature de français de souche et puis les autres. Voilà. Et donc, c'est une manière, c'est évidemment, à l'intérieur de cette littérature-là, il y a des choses très différentes. Mais c'est une manière de faire un effort ou de défendre un peu le rapprochement entre ces deux types de littérature. Ça, c'est le but de mon propos, en fait. Mais autrement, oui, on trouve des choses très, très différentes et qu'on ne peut pas mettre ensemble. Ça, je suis d'accord.